Bonsoir à toutes et à tous, on est ravis de vous retrouver pour Parler Temps qui court, ce soir en compagnie d'Alice Zeniter.
Un tango, une danse, un baiser.
Et tu peux taper, péter, péter.
Ça y est.
Ah ben, à vous voir arriver, on n'aurait pas cru que c'était si bien. Donc, voilà, ça résume, quoi.
C'est vrai que le printemps, l'été, c'est formidable. On avait les mêmes tomates et les petits pois.
Par les temps qui courent. Internet, tu dois y penser comme à une ville qui se gentrifie. Nous, on était les premiers habitants, ceux qui pouvaient et savaient se déplacer à l'intérieur. Ensuite, les riches sont arrivés et ils ont voulu que les quartiers soient sûrs. Alors les uniformes sont arrivés aussi. Pour pouvoir continuer à exister, on a occupé les égouts, les terrains vagues, les ruines. Ce n'est pas un choix, c'est parce qu'on est traqué. Internet, c'est pas un pays, c'est rien de terrestre, c'est un monde totalement différent. Voilà ce qu'explique le personnage de Elle, hackeuse, à Antoine, assistant parlementaire PS aspirant écrivain. Dans votre dernier roman, Alice Zeniter, on y lit aussi qu'à passer trop de temps sur Internet, on pourrait s'habituer à un monde sans averse. Or, c'est l'averse qu'on voudrait justement dans ce texte, qu'il se passe quelque chose. Les deux personnages trimballent leur être comme un monde dans un monde autre, avec la conscience du décalage dedans-dehors, deux sortes de solitude dans la foule que vous reliez par une question adressée au monde contemporain, après le constat, où et comment agir pour la transformation, comme un empire dans un empire, et publié aux éditions Flammarion. Bonsoir à vous, Alice Zeniter.
Bonsoir.
Soyez la bienvenue. On va commencer par un extrait de ce texte, pas du tout le début, mais c'est le début de quelque chose.
Antoine avait écrit les choses ces dernières semaines. Mais ce n'était que ça. Des choses. Pas vraiment des textes. Encore moins un chapitre structuré, dessinant le tout plus vaste, dans lequel il s'insérerait ensuite. Sur un des papiers accrochés au-dessus de son bureau, s'alignaient depuis quelques jours les différentes parties de son livre, telles qu'il les avait grossièrement divisées. Introduction, développement, suspension, dénouement. Il avait pour chacune 20 citations possibles en exergue, suivies de notes manuscrites dans lesquelles il repérait plus de flèches que de mots. Il pensait souvent qu'il aurait dû commencer à écrire plus tôt. À 33 ans, il était assez mature et assez cultivé pour qu'on attende beaucoup de lui, qu'il attende beaucoup de lui-même. Il avait lu trop de livres et on avait parlé trop de fois pour se permettre d'en écrire un médiocre. Il y avait une phrase de Nietzsche sur ça, mais il ne réussissait pas à la retrouver. Nietzsche avait longtemps fasciné Antoine, pas pour la profondeur de sa pensée, mais parce qu'il avait été capable d'intituler une partie d'Ecce Homo « Pourquoi j'écris de si bons livres ?» D'où venait ce type de confiance? Comment l'acquérait-on? Maintenant, il n'avait plus qu'à accoucher d'un chef-d'œuvre. C'était paralysant. Il songea à tous ceux qui, non contents d'avoir écrit sur la guerre d'Espagne, l'avaient vécu. Il se demanda s'il était bien raisonnable d'entrer sur le ring de l'écriture en défiant ses poids lourds et tous ensemble. Les républicains espagnols avaient déjà été racontés par Hemingway, Orwell, Dos Passos, Malraux et Bernanos. Avait-il encore besoin d'Antoine ?
Alice Zeniter, vous riez en écoutant Romain de Bec de Lièvre lire comme un empire dans un empire. C'est parce que vous riez de lui? Vous riez tendrement de lui?
Je ris de Nietzsche. J'ai passé à Antoine cette fascination pour, pour un auteur capable d'écrire un texte intitulé « Pourquoi j'écris de si bons livres ?» Et c'est vrai que, enfin, voilà. Et pourtant, donc, j'ai écrit cette scène. Le passage que Romain vient de lire, je l'ai retravaillé encore et encore pendant 3 ans. Donc, je savais exactement que la phrase allait arriver. Et pourtant, entendre que Nietzsche a écrit ce passage intitulé « Pourquoi j'écris de si bons livres ?» peut me provoquer encore un fou rire. Là, que je retiens parce que je suis en votre compagnie, mais je pourrais me laisser aller à 10 minutes de rire en y pensant.
Mais vous pouvez, vous savez, il n'y a que le silence qui passe assez mal à la radio quand il est très très long, mais les rires, normalement, on peut les garder dans leur intégralité. Bon, en tout cas, il y a ce personnage d'Antoine qui écrit, il y a un arc tendu dans ce texte-là, qui est l'aspiration permanente d'Antoine à écrire ce livre-là sur la guerre d'Espagne, et puis la toute fin du livre où il se rend compte qu'il valait mieux peut-être dire ce projet de livre en 3 phrases, devant un feu de cheminée, au milieu d'amis et de personnes avec lesquelles il se sentait bien, comme s'il y avait eu aspiration, 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 désir, 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 et puis en fait, ça qui arrive. Est-ce que Antoine, il devait être forcément écrivain en même temps que cet assistant parlementaire PS quand il est arrivé chez vous, dans votre tête ?
Oui, parce que je voulais qu'il ait la tentation de raconter une histoire du passé qui soit beaucoup plus simple à appréhender que le présent. Et où finalement, se joignait pour moi dans le personnage d'Antoine à la fois des questions politiques et des questions de littérature qui me sont très chères et puis qui sont même cruciales, je pense, dans mon développement. Et, notamment la question proustienne de est-ce que la seule vie vécue, c'est la littérature? Parce que c'est le passage de vie qu'on peut ressaisir, qu'on peut vraiment appréhender comme un tout ayant une forme au lieu d'être ce flottement, ce pollen, cette chose qu'on n'arrive pas à comprendre. Et pour Antoine, il y a ça avec la dimension politique en plus, c'est que finalement la seule révolution, le seul sublime du politique, le seul grand moment, c'est celui sur lequel on peut se retourner presque un siècle plus tard pour le raconter avec les outils de la littérature, alors qu'au présent, on n'est jamais capable de comprendre ce qui est en train de se passer. Les choses émergent comme ça, comme des magmas, on ne sait pas ce que sont les gilets jaunes, elle ne sait pas ce que sont les Anonymous, on ne sait pas ce qui est en train de se passer à l'Assemblée nationale, est-ce que c'est une horreur où finalement rien n'avance, ou est-ce qu'il faut se contenter de ces petites choses qui passent, est-ce que ça c'est quand même quelque chose de bien, quelque chose de mieux, mais dans le fait de ressaisir une histoire et de pouvoir la raconter, et quand cette histoire c'est la guerre d'Espagne, alors là on a l'impression de savoir qu'est-ce qu'il faut en politique, qu'est-ce que c'est un bon régime, qu'est-ce que c'est le courage, qu'est-ce que c'est...
De le savoir avec des illusions possibles, c'est-à-dire que c'est aussi, quand à la fin, il dit, peut-être que je voulais juste faire ça, je voulais juste raconter cette histoire de cette manière-là, en 3 phrases plutôt qu'en 250. On sent aussi qu'il est conscient de l'illusion qu'il y avait à vouloir raconter de grandes actions politiques, de grandes résistances, parce que c'est toujours plus simple de raconter ça derrière soi que d'essayer de le saisir au présent.
Bah, tout à fait, oui.
Non, parce qu'il y a quelque chose dans le roman qui essaye de, en tout cas, de saisir le présent. C'est-à-dire que peut-être ce roman que ne peut pas écrire Antoine, vous essayez de l'écrire à Lysanitaire. Qu'est-ce qui se passe? Qu'est-ce qui se passe sous notre nez? Qu'est-ce qui se passe maintenant? Comment on peut le raconter? Est-ce que c'était une des ambitions de ce texte-là?
Oui, de travailler sur la difficulté qu'il y a à avoir une matière première qui soit très 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 récente, sur laquelle j'ai pas de recul, j'ai pas d'analyse. Du coup, il y a des liens de causalité, par exemple, qui se font toujours plus tard. Enfin, on peut dire, en fait, quand on regarde la manière dont des historiens peuvent relire une période, dire de cet événement finalement va découler tel événement qui a priori n'a pas l'air lié, mais si on parvient à avoir ce recul, on dira oui, c'est un écho ou c'est une conséquence de manière beaucoup plus directe. Mais quand on est au présent, moi j'arrive pas en fait à savoir où sont exactement les liens de causalité dans la période que je raconte. J'arrive pas non plus à porter un jugement, et ça c'est quelque chose qui est assez beau en fait pour moi, de me dire par exemple, si je travaille sur les gilets jaunes, je vois des éditorialistes qui eux ont un jugement et une analyse tous les jours. Ils sont capables de dire c'est ceci qui est en train de se passer. Et moi, pas du tout. Et moi, j'aurais peur même de mettre ma parole en jeu dans cette arène. Parce qu'au moment de la déflagration, je comprends rien. Et comment on travaille sur ça? Comment on écrit ce qu'on n'arrive pas à comprendre? Et c'est pour ça que, voilà, il y a cette scène où je plonge Antoine dans une manifestation et où finalement il a pas d'avis, quoi. Il voit des gens qui sont en train de détruire un abribus à coups de trottinette, il voit des gens qui lancent des choses, des gens qui sont blessés par la police, il est pris dans le fracas des barrières métalliques. Et tout est suspendu en termes de qu'est-ce que ça veut dire moralement, politiquement. Non, c'est juste un chaos des sens. Et ce que je dis, c'est que ça lui rappelle les scènes de Andrei Rublev. Parce que pour moi, c'est vraiment ça. Enfin, dans les scènes de guerre du film, j'arrive plus à savoir qui est qui. Il y a plus de gentils, il y a plus de méchants. Par contre, il y a les corps des chevaux, il y a la paille qui brûle et il y a cette impression que le monde est en train de partir en vrille dans toutes ces, enfin à toutes les échelles, quoi, depuis le poulailler jusqu'aux armées impériales. Je me suis un peu perdue du coup moi-même dans l'idée d'écrire l'absence de sens et le chaos des, l'absence de sens au singulier et le chaos des sens au sens sensoriel.
Mais peut-être se demander si la littérature c'est un bon laboratoire alors pour essayer de justement reprendre ce qui se passe entre guillemets dans le réel, voir ce qu'on peut en faire, voir ce qu'on peut comprendre. Est-ce que vous vous mettez à écrire à l'usinitaire pour juste piger ce que vous traversez?
Alors c'est sûr que je comprends jamais mieux les choses que quand je suis en train de les écrire. Pour moi c'est un temps, un laboratoire de la compréhension que l'écriture me donne et qui est assez rare, enfin que je trouve pas par ailleurs. Aussi parce que j'ai choisi une forme qui est longue, donc j'ai l'impression d'être libérée de toute obligation de rendre mon avis, quoi. C'est pas un billet d'humeur, c'est pas un édito, donc je peux prendre le temps d'évoluer entre les nuances et les questions et j'espère que la lecture fait ça aussi, que la lecture est un peu ce temps où on dit ok, on peut suspendre là pendant 100 pages, 200 pages, 300 pages la nécessité de donner un avis et se laisser traverser par les choses qui sont racontées. Et si à la fin ça a forgé ou déplacé un avis, c'est très très bien. Mais c'est surtout le lieu du doute, du temps et du doute pour moi, et pas le lieu où on délivre un message.
Notamment parce que vous le faites à travers au moins deux personnages avant qu'ils soient rejoints par d'autres et par peut-être aussi une entreprise plus collective. Ce personnage de Elle, sur lequel on va revenir, et le personnage d'Antoine, comme étant deux corps, deux entités qui vont nous permettre de cheminer comme ça dans ce... Alors il faudrait peut-être qu'on parle du titre, dans cet empire, comme un empire dans un empire. Moi, par exemple, ce matin, j'ai essayé de ressaisir les deux personnages et je me suis dit, si j'essayais de les décrire, je les décrirais comment? Et je les décrivais comme les silhouettes plus solitaires que les autres dans les fêtes où il y a plein de bruit, plein de fumée, plein de musique et dont on sent que leur monde intérieur, il est plus fort que l'agitation qu'il y a autour, qui savent éventuellement le planquer s'il le faut, et que ce comme un empire dans un empire, je l'entendais d'un coup comme ça. Que en fait, vous aviez choisi deux personnages d'une forme de marge, alors qu'il y en a un qui est au milieu de l'État, hein, à l'Assemblée nationale, mais quand même un peu à côté, quoi.
Il y a cette dimension très forte pour Elle et Antoine. C'est pour moi, c'est une des choses qui font qu'ils se ressemblent alors que leur parcours est pas du tout le même. C'est qu'ils se sont construits des vies bulles d'une certaine manière. Antoine, il a échappé à son milieu. C'est pas son milieu naturel, mais en tout cas son milieu initial. Il a échappé à son village, à la Bretagne, à la classe moyenne inférieure. Et Paris, en fait, c'est une sorte de construction. Là, c'est sa vie parisienne, c'est une vie où il peut être autre chose. Il peut être essayer, en tout cas, d'être brillant. Il peut essayer, en tout cas, d'être un écrivain. Il peut être plongé au cœur de la République dans tout ce qu'elle a de plus fastueux, d'être au Palais Bourbon, etc. Et tout en portant cette construction, un peu comme Atlas porterait le globe sur ses épaules, il est tout le temps travaillé par la peur que cette construction soit décelée, qu'on lui dise que c'est une imposture, qu'on le renvoie à sa place. Et donc, c'est vrai que ça fait un monde intérieur très, très
un
clos,
empire.
Un empire personnel pour Antoine. Et elle a la même chose avec sa vie du dedans, en fait. Sa vie loin de ce qu'elle appelle la viandosphère. puisque quand elle agit sur Internet, elle peut ne pas être une femme, elle peut ne pas être pauvre, elle peut ne pas être arabe, elle peut expérimenter une forme de puissance dont elle est totalement privée dans la vie réelle, IRL. Et cette bulle, voilà, qu'elle s'est construite, ça fait aussi qu'en fait, elle regarde. Il y a des moments où elle regarde la viandosphère comme si c'était une série, et en se disant que les personnages sont pas très intéressants et que c'est beaucoup de blabla pour rien et que et elle aussi, elle balade cet empire intérieur à chaque fois qu'elle sort. Il y a cette idée que peut-être la réalité est ailleurs, comme dirait l'autre.
Ça veut dire que une des choses qui pourrait éventuellement relier ce roman avec celui qui précède, ou même d'autres romans précédents, Elle Zénitaire, ce serait la question de l'identité comme un empire, c'est-à-dire cette fameuse construction avec ou sans barrage, avec ou sans forteresse, mais qui est nécessairement construite en tout cas, et qui est donc peut-être éventuellement déconstruite. L'art de perdre interrogeait aussi la question du transfuge, la question de sortie de classe, la question de l'exil, de la migration, de la mémoire. Comme si peut-être il y avait ça qui se jouait pour vous de roman en roman. Alors, des empires dans des empires.
Non, mais c'est vrai que c'est une constante. Et puis avec cette idée d'illusion, parce que dans la citation complète de Spinoza, on voit que ce qu'il dit, c'est un tort, quoi. Les hommes se pensent à tort comme un empire dans un empire. Ils pensent l'homme dans la nature, en fait, dit la citation, comme un empire dans un empire. Et comme si il était possible dans l'empire de l'humain que le libre arbitre soit une chose toute puissante, qu'on puisse se former seul, que la volonté, etc., nous arrache aux lois de la nature, au déterminisme, alors qu'en fait c'est tout à fait faux. Et c'est vrai que cette question de comment s'articule le poids des déterminismes, la force, le maillage des déterminismes avec cette aspiration à quand même qu'il y ait de la liberté, avec ce rêve d'un sujet cartésien qui soit maître et possesseur, c'est quelque chose qui sous-tend tous mes personnages. Même quand j'écris des livres pour enfants, je me retrouve à créer des personnages d'ours qui ont des problèmes avec leur oursitude et qui se demandent si c'est quelque chose qui doit être ressenti de façon intérieure ou montré dans un acte. Faut-il tuer un lapin pour montrer qu'on est un ours, ou est-ce qu'on peut être juste un ours en se sentant un ours? Et je m'en sors pas. Non, c'est vrai que ces questions-là, je m'en sors pas. Je les aborde par tous les angles possibles.
Qu'on commence à arriver à bout de certaines discussions qu'on a. C'est-à-dire, par exemple, quand on se dit la lutte des classes, oui, elle existe comme elle n'a jamais existé, mais à un moment donné, c'est vrai qu'il va bien falloir dépasser ce commentaire pour pouvoir proposer autre chose. Parce que ce dont on manque vraiment aujourd'hui, c'est de proposition d'autre chose, et d'autre chose qui soit réelle, d'autres façons de vivre ensemble, d'autres façons de mener nos vies, de vivre ensemble, de supporter, ou même de mieux que supporter, de s'entraider éventuellement, mais au moins déjà de se supporter sans s'entretuer. Et j'imagine, je le crois, moi, qu'à un moment donné, on peut passer à autre chose. On va pas toute notre... On est quand même... Si l'espèce humaine a une qualité, c'est ça doit de pouvoir s'adapter, d'évoluer. Donc j'espère qu'à un moment donné, on s'adaptera et on évoluera radicalement, quoi.
Le Parisien, 16 mars. Entre 29 et 40 000 lycéens et collégiens ont participé à la manifestation dans les rues de Paris.
Je pensais pas qu'il y avait autant de jeunes, quand même.
Les jeunes manifestants se sont montrés créatifs dans la recherche de slogans.
Quand c'est fondu, c'est foutu.
Alors, en allant dans les manifs des jeunes, là...
Vous vous êtes pas rendu compte spécialement...
Ouais, je me suis rendu compte que...
Maintenant qu'on s'en rend compte, faut peut-être se bouger, vraiment.
J'étais vieux.
Quand on était pas né, vous auriez pu réagir, mais bon...
Pourtant, moi, j'ai trié mes déchets, tout ça...
Oui, mais c'est pas... Enfin, c'est individuellement qu'il faut le faire, mais il faut le faire de façon plus générale aussi.
Pourtant, j'ai même pas encore 40 ans, quoi.
On sait même pas si on va vivre jusqu'à 60 ans. Parce que dans 11 ans, si on continue comme ça, la banquise, ça va fondre et tout le CO2 va revenir et on va étouffer, littéralement. Et 3
degrés, Libération, 16 mars. Ce slogan fait référence à la hausse de 3,5 degrés vers laquelle se dirige l'humanité d'ici la fin du siècle si les États ne font que respecter leur engagement de la COP21. Ce qui est loin d'être le cas.
Il y a du monde, c'est bien.
Vous en avez bien profité de la planète. Hein.
Ah ben non, et vous alors?
Bah moi aussi, ouais.
Ah, voilà.
Voici comment nos vies pourraient changer. Reporter.net. Stopper les lignes aériennes intérieures, interdire les poids lourds en zone urbaine, limiter à 110 km/h la vitesse sur autoroute.
C'est quoi ton drapeau, toi?
Alors moi, c'est un drapeau royaliste. Là, vous avez le cœur vendéen, espoir et salut de la France. Et je pense qu'on peut très clairement être royaliste et être écologiste.
Divisé par 3 notre consommation de viande. Divisé par 3 le flux vidéo consommé par personne. Limite de 1 kg de vêtements neufs par personne et par an.
Il pourrait y avoir des modes d'emploi très clairs. Olivier Minot, ici, sur Arte, dans la dépêche du mercredi, compilait, donc c'était en 2019, des faits d'actualité, avec cet article sur le site de Reporter, « Voilà ce qu'on pourrait faire ». Et juste avant, c'était une archive de Virginie Despentes, 2 ans avant, qui disait « Bon, une fois qu'on a commenté jusqu'à la lie l'existence de la lutte des classes, qu'est-ce qu'on fait ?» Et en fait, c'est vraiment comme ça aussi que l'équilibre du livre s'établit à l'Isénitaire, comme un empire dans un empire. Ça, j'ai l'impression que ça ne cesse de dire ça. Une fois qu'on a constaté, qu'est-ce qu'on fait ?
J'en ai aucune idée. J'en ai absolument aucune idée. Par contre, une des choses que la littérature peut faire, j'ai l'impression, c'est de travailler sur le changement du regard. La citation que vous avez lue au début, c'est sur Internet, c'est ça. Il faut penser à Internet comme à. Et c'est cette idée, voilà, de peut-être pouvoir reconfigurer les représentations et se réapproprier autrement les choses qui nous entourent. Donc, par exemple, voilà, se dire Internet, c'est le combat de elle. Il faut y penser comme à quelque chose qui appartient à tous et qui est ouvert au bricolage, dont on pourrait s'emparer si on arrête d'y penser comme à une bulle tenue à bout de bras par les GAFAM ou comme au domaine totalement effrayant où s'épanouissent uniquement des pirates russes. Alors, on pourra en refaire une chose commune. On pourra se partager cette propriété d'Internet. Et puis sur la question de
la politique plus institutionnelle.
Alors ça, je sais pas comme quoi il faut y penser. Non, je pensais plutôt à la dernière partie, au monde de la vieille ferme et à cette idée de justement de travailler aussi à penser différemment les autres formes du vivant. Essayer d'y penser. Alors moi, je lis beaucoup Baptiste Morisot depuis un an, et essayer d'y penser d'une manière qui établisse une forme de cohabitation diplomatique. C'est-à-dire, on n'y pense pas comme à des humains, parce que en fait, ce sont des plantes et d'autres espèces animales, donc ce serait absolument ridicule de faire de l'anthropomorphisme. Mais on n'y pense pas non plus comme à des choses, des possessions ou des ressources. Et je pense que vraiment là, la littérature peut faire apparaître quelque chose. Et j'ai essayé de créer ça un peu en plongeant le personnage de elle dans cette nature qu'elle connaît pas, où elle dit bon, finalement moi je suis allée 3 fois au jardin botanique et ça m'emmerdait les petites chèvres qu'il fallait nourrir, donc ça voilà. Si à la limite regarder des documentaires animaliers, voir des animaux exotiques, d'accord, mais sinon voilà, il y a cette chose qui s'appelle la nature et j'ai aucune idée de ce que c'est, mais c'est chiant. Enfin, elle arrive avec cet état d'esprit là et puis en fait elle va commencer à s'apercevoir que une forêt, c'est pas la même chose qu'un potager, c'est pas la même chose qu'un verger. Elle va commencer à regarder la manière dont les oiseaux traversent l'espace, qui est un truc voilà qu'elle est incapable de faire. Il y a une manière d'habiter le monde qui est pas du tout la sienne, et peut-être que les deux se continuent, peut-être que celle du rouge-gorge et celle de elle se continuent et que vraiment le monde serait vide s'il y avait pas les deux côte à côte. Et ça, c'est une chose, voilà. Je sais pas ce qu'on peut faire pour arrêter le réchauffement climatique. Je sais pas ce qu'on peut faire pour permettre qu'il y ait une vie humaine qui soit encore douce à la surface de cette planète. Mais je sais que la littérature peut chercher à raconter autrement les cohabitations entre humains et entre l'humain et les autres formes de vivant. Ça, c'est un défi qui appartient totalement à mon champ et que je suis contente de pouvoir explorer.
En tout cas, ce qui est sûr, c'est que la littérature comme outil, il semble que vous l'employez à faire se déplacer le regard de vos personnages dans la suite de ce que vous décriviez là, l'Isénitaire. C'est-à-dire que Antoine, il commence avec une certaine vision du monde, vision de la politique, vision de l'Assemblée, vision des manifs, vision de la gauche, vision du PS. Et puis on peut espérer qu'il termine le roman pas exactement avec la même vision. Et de même, elle a une vision d'elle-même, du combat, de l'Internet. Et puis nous, peut-être c'est dans ce cas-là, c'est plutôt nous ne terminons pas le roman avec la même vision des hackers, de l'activisme, etc., etc. C'est bouger les regards, quoi. Écrire, ce serait bouger les regards.
Et en même temps, en essayant d'éviter ce mythe ou ce topos de la littérature, enfin auquel j'ai souscrit aussi totalement pendant un temps, mais qui à mon avis du coup crée des manières de penser qui peuvent être un peu délétères, et qui est celui de l'épiphanie, c'est de dire non, en fait les changements de regard sur le monde, les changements de, ça peut pas être à chaque fois le déchirement du voile de Maya et puis on découvre quelque chose de totalement bouleversé. C'est de dire aussi c'est des glissements qui sont lents. Moi j'aime bien aussi travailler sur les empêchements des personnages, de dire ben en fait Antoine il a peur aussi. Sa vie, cette bulle qu'il a construite, dont on parlait au début, il l'a construite en prenant aussi l'argent de ses parents, en imposant des sacrifices financiers à ses parents pour pouvoir partir étudier à Paris, pour pouvoir rester là. Lui-même, il a dû s'astreindre à une certaine discipline et du coup, perdre ça, perdre la reconnaissance sociale, la reconnaissance financière qui vient avec le poste à l'Assemblée nationale, c'est dur. Donc non, Antoine, il a pas une épiphanie, et non, il change pas du jour au lendemain. Elle, c'est pareil, elle avance en étant pétrie dans ses peurs. Son compagnon vient de se faire arrêter. Ses anciens compagnons d'armes d'Anonymous ont eux aussi été en partie arrêtés au début des années 2000. Et donc comment on avance avec les doutes, avec les peurs, et comment on change malgré tout, mais dans une lenteur qui peut paraître désespérante et que j'essaye de décrire comme n'étant pas désespérante.
Oui, parce que vous parliez du déterminisme et du poids du déterminisme à l'échelle du destin intime, mais finalement, c'est aussi une question qui se déplace à l'échelle du destin collectif, c'est que en effet, très vite, on peut dire c'est désespérant, c'est trop compliqué en fait. C'est trop compliqué d'échapper à ses origines personnelles, à la manière dont on a été façonné. Et c'est trop compliqué de changer le monde. Donc il pourrait y avoir aussi cette façon de dire les choses. Et en fait, il semble que vous disiez « Ok, ça va pas se passer en une épiphanie, mais ça peut se passer. »
Ça peut se passer. Et c'est quelque chose qui appartient aussi encore une fois, finalement, au domaine du sensible et au domaine des affects et des émotions. Elle et Antoine, ils agissent pas parce qu'ils ont une théorie qui leur plaît et ils voudraient que le monde puisse répondre à cette théorie. Ils agissent parce qu'en fait, ce qu'ils voient de détestable, ça leur fout des coups au ventre. Et ça, c'est plus fort que le désespoir, en fait. C'est-à-dire que, bien sûr, ils peuvent se dire « à quoi bon, ça sert à rien ?» Et elle emploie cette image qu'elle a vue dans un documentaire animalier d'un petit troupeau de loutres. Je sais pas si on dit un troupeau, on dit pas une meute de loutres non plus.
Un
agglomérat, une sorte de famille.
Un
tribu de loutres, un collectif de loutres, qui chasse un crocodile. Et elle dit, voilà, le crocodile, bien sûr, qui va revenir, le crocodile revient toujours, mais c'est pas pour ça qu'il faut arrêter de le chasser. Et c'est ça, finalement, c'est ça la vie, c'est ça le combat politique. Et je trouve ça, enfin voilà, je trouve ça assez beau de dire il y a quelque chose de plus fort que le à quoi bon. Et quand le à quoi bon arrive, quand il arrive dans un moment de fatigue, quand il arrive, je sais pas, avec l'ivresse triste, quand il arrive parce qu'il s'ajoute à des désespoirs personnels, une rupture, alors Antoine il vit encore avec le souvenir de Cécile qui est partie, etc. Ben il sera chassé par le fait qu'à un moment, dans l'avenir, ce que Antoine va voir ou ce que elle va voir, c'est-à-dire un gilet jaune qui a pris un tir de flashball et qui a un hématome qui s'étend sur la poitrine, ou dans le cas de elle, des femmes qui sont harcelées en ligne par leurs ex ou espionnées par leur famille, etc. Ça va faire quelque chose qui est si fort qu'on oubliera le à quoi bon pendant.
Donc un peu d'épiphanie alors, Alice Zéniter.
Non, c'est pas une.
Bah, c'est un choc. Enfin, il y a quelque chose qui du changement procède d'un choc. Parce que vous dites, à un moment donné, ils vont voir ça,
Mais c'est quelque chose qu'ils savent, déjà. La seule chose qu'ils expérimentent, c'est le fait que ça les affecte toujours. C'est le fait qu'ils sont incapables de détourner la tête et de se dire, voilà, en fait, c'est ça, la course du monde, et tant pis, enfin, cette société charrie son poids de souffrance, d'inégalité, d'injustice, et je vais juste détourner la tête car il serait fou de vouloir changer le monde des hommes. Ils sont incapables de faire ça. C'est pas une épiphanie. C'est quelque chose qui est sans cesse renouvelé, de se dire je ne peux pas. Enfin, je ne peux pas changer le monde et je ne peux pas ne pas changer le monde.
Ce qu'ils ont de très particulier, c'est qu'ils n'ont pas de programme politique universel et ils vont se mêler de toutes sortes de causes. Ils se battent pour la liberté du net, notamment le respect de la vie privée sur le net, mais ils ont aussi participé à des actions contre le terrorisme, contre les violences policières, ils se sont attaqués à des gouvernements ou des grandes entreprises en dénonçant des actes de corruption. En fait, on a tout vu. Sous la bannière anonyme.
Est-ce qu'on peut dire qu'ils sont hyper politisés, Gabriella Coleman ? I would say that they are today.
Oui, aujourd'hui, je dirais qu'ils sont très politisés. Mais enfin, ils ont beaucoup d'humour aussi, c'est important. Ils aiment bien faire des canulars, des grosses blagues. 90% de leurs opérations, des opérations qu'ils lancent, sont politiques. Et ils ont recours à des tactiques assez controversées parfois. Mais ce qui les motive, de manière générale, ce sont des questions politiques aujourd'hui. Et ce n'était pas le cas dans ce mouvement Anonymous il y a 10 ans.
C'est Gabriella Coleman donc, qui est citée. Elle est traduite par Eve Dair en 2016 sur France Inter au micro de Nicolas Demorand. À Les Inter, vous disiez finalement, il y a un outil de la littérature qui procède au changement des regards, quel que soit l'endroit où ça se passe. Est-ce que c'est les personnages qui changent de regard sur ce qu'ils vivent et sur le monde, ou est-ce que ce sont les lectrices et les lecteurs qui, au fur et à mesure, dans leur plongée de lecture, bougent eux ou elles aussi. Il y a un des outils de la littérature qui est la documentation, que tout le monde n'est pas obligé d'utiliser, mais que manifestement vous utilisez, vous. D'une part, quel plaisir c'est de se lancer dans un projet de livre en sachant que ça va être aussi un moment où on va apprendre plein de choses. Et d'autre part, qu'est-ce que vous en faites concrètement de cette matière de choses apprises, lues et découvertes? Comment ça se condense, comment ça vient dans une phrase? Comment ça vient de la littérature et pas une thèse, en fait?
Alors, d'abord, il y a cette chose qui est, pour moi, ça fait partie des chances absolument incroyables de mon activité d'écrivaine. La possibilité de traverser d'autres expériences que la mienne avec la légitimité de l'écriture. Je peux traverser un sujet, empiler les livres, essayer de me documenter sur quelque chose pendant des mois, voire des années, et en disant mais c'est vraiment du travail qu'on ne me dérange pas, ça n'est pas une marotte, cette espèce de plongée dans une existence autre, vous n'avez pas le droit de m'en sortir, c'est vraiment ce que je fais. Et parfois je me dis que si j'avais pas cette justification de l'écriture, ça ressemblerait à de la folie, tout simplement. Ça ressemblerait même peut-être à ce que Kierkegaard définit comme le désespoir. Le désespoir, c'est toujours le désespoir d'être soi et pas Jules César. Et en réalité, je peux sortir de ça. Je peux être Jules César. Je peux être une hackeuse. Je peux être assistant parlementaire ou un paysan kabyle. Et il y a un arrachement à ma propre vie qui est possible aux coordonnées de mon existence que je peux fuir. Et ça, c'est merveilleux. Et la documentation, elle m'apporte ça.
Elle vous l'apporte plus comme la possibilité de vivre un temps les vies des autres, quoi, en gros, que celle d'apprendre. L'appétit, il est plutôt fuir aux coordonnées de votre existence, comme vous les décriviez si bien, que accumuler de la connaissance, dévoiler un monde qui vous était inconnu.
Mais
l'un va avec l'autre.
Non, c'est ça. C'est que apprendre, pour moi, c'est réussir à avancer dans un monde qui était jusque-là derrière une porte close. C'est apprendre à me mouvoir dans ce monde-là qui aurait pu ou qui aurait dû me demeurer radicalement étranger, puisque a priori j'étais pas amenée à m'y déplacer. Donc il y a clairement cette curiosité, et puis il y a celle de voir si je peux transmettre le moment où justement ça va basculer en écriture de tout ce que j'ai appris. Qu'est-ce que je peux transmettre, sous quelle forme, et comment je fais pour essayer de que tout ce que j'apprends, qui est très différent, ne soit pas écrasé par mon écriture. Alors, je sais pas comment dire ça. Que au bout du compte, ce soit pas tout le temps juste dû à l'isénitaire et la guerre d'Algérie, ou une attaque par déni de service, ou les gilets jaunes, ou l'histoire de la révolution de 56 en Hongrie. Que tout se ressemble et tout soit un paragraphe d'Alizénitaire. J'ai tout le temps envie d'essayer de faire exister ma matière première plus fort que mon écriture. Donc, par exemple, si je faisais de la sculpture sur bois, je serais vraiment celle qui décide de suivre les nœuds de la pièce de bois que j'ai ramassée. Je prendrais pas une pièce que je pourrais entièrement sculpter, qui serait entièrement sculptable. Je choisirais de suivre les défauts et les beautés qui existent préalablement à mon projet artistique. Donc,
Et alors, par quel moyen? Parce que, par exemple, j'ai commencé par une citation où elle prend la parole. Elle, le personnage de la hackeuse, elle prend la parole. Et donc, elle va pouvoir dire en expliquant des choses. Alors, bien sûr, ça passe par sa subjectivité et puis on le reçoit comme tel. Mais il n'y a pas que ça. Il n'y a pas que des moments où elle explique Internet. Il y a d'autres moyens par lesquels vous, Alice Zénitaire, vous essayez de rendre tout ce que vous avez appris. Et dans ces cas-là, vous avez quoi comme moyen?
Ça, c'est une... c'est une bonne question. Enfin, il y avait... J'avais un peu fait la liste des choses qui étaient possibles en lisant aussi les ouvrages précédents. C'est-à-dire, je me dis, ok, très bien, je peux par exemple, je peux faire des paragraphes extrêmement techniques où j'explique étape par étape quelque chose, mais c'est un peu aride, c'est un peu austère. Je peux choisir de faire, je peux choisir de faire. Par exemple, faire exister Internet, faire exister les déplacements de elle dans Internet par une succession d'images. Alors, ce sera des métaphores, ce sera des comparaisons, une accumulation comme ça. Du coup, je vais faire exister quelque chose du sensible, mais au bout du compte, il y aura plus Internet et je masquerai le fait que ce monde que j'ai envie d'écrire, c'est aussi un monde qui a un vocabulaire, qui a une culture. En fait, Gabriella Coleman, qu'on vient d'entendre, elle est anthropologue et elle étudie vraiment la culture des groupes de hackers et de activistes et leur humour, enfin leur forme de rituel, leurs organisations politiques, comment ça fonctionne. Donc je pouvais pas juste faire passer ça comme je trahis ma matière première, je vais en faire uniquement une sorte de
décor, quoi, en fait.
Oui, voilà, puis de chemin parallèle poétique qui aurait pu être quelque chose sur Internet, mais qui finalement aurait pu être quelque chose aussi sur la cueillette du Guy. Enfin, on s'en fout un peu, de toute façon, c'est moi, j'ai formé mes images, c'est ça que je disais, quoi. L'écriture, le côté j'ai fait de belles images va masquer totalement ce dont je suis en train de parler.
Donc ce serait vraiment la priorité donnée aux choses accumulées, quitte à ce qu'elles ressortent parfois brutes, quoi. Enfin, pas trop teintées de vous, alors.
Alors, elles sont pas brutes. Et le fait de disparaître, moi, c'est un long, long travail. C'est le contraire du brut, finalement. Mais de travailler sur quelque chose qui a l'air d'être de l'effacement, alors qu'en réalité, je suis maîtresse de chaque mot et de chaque virgule. Mais je dis, finalement, plongez-vous dans ce vocabulaire, dans ce monde, dans cette culture, au lieu de remarquer ce que j'ai fait comme tournure de phrase. C'est beaucoup, beaucoup de travail, mais c'est du travail très discret.
C'est marrant parce que tout à l'heure, quand on a lu le passage où Antoine apparaissait comme ça, comme très décidé, juste après un rendez-vous chez les éditeurs, avec son plan, il disait son plan que vous semblez suivre, non sans humour, Alice Zénitaire, parce que il y a évidemment quelque chose de drôle à mettre en scène, cet aspirant écrivain qui a tellement envie d'écrire un livre, et puis vous de le faire, par ailleurs, en prenant son plan, peut-être ses citations, comme si c'était un livre que vous lui avez piraté, en fait, à Antoine.
Alors, c'est vrai qu'il y a cette idée aussi de travailler en open source, qui appartient à la fois au monde des pirates et puis finalement, la vieille ferme, c'est la même chose. C'est une organisation en douocratie. C'est-à-dire, celui qui peut faire, décide de faire. Il n'est pas obligé d'attendre la validation des autres. Et c'est une manière aussi de pouvoir partager la... Il n'existe plus de propriété individuelle et notamment intellectuelle. Tout le monde fabrique ensemble. Tout le monde peut améliorer les inventions des autres. Et donc, en effet, Antoine et moi, on partage un livre, on partage des citations.
Vous bossez ensemble, en fait.
C'est ça.
J'ai bossé avec Antoine pendant des années.
J'ai travaillé avec un personnage que j'ai inventé et dont le roman inventé a fini par infuser le mien. C'est quelque chose qui est assez... oui, c'est un peu un ruban de Möbius. Mais... Et je voulais aussi, d'une certaine manière, montrer ma tendresse pour Antoine en faisant ça. C'est-à-dire que, oui, Antoine, il va se rendre compte qu'à un moment donné, il raconte son histoire auprès du feu à 3-4 personnes, dont certaines s'endorment probablement déjà, et que cette histoire de la guerre d'Espagne, de Capa et Taro qu'il portait, ben, c'était juste comme ça qu'elle avait besoin d'être racontée. Mais j'avais pas envie de montrer ça de manière dégradante. J'avais pas envie que ces velléités d'écriture, moi, je les regarde de haut. Donc c'est pour ça, je reprends sa structure. Je lui donne à un moment donné un premier chapitre pour montrer que ça va quand même. il peut écrire, il aurait pu l'écrire, ça se jouait finalement à très peu de choses. C'est pas un personnage ridicule, enfin qui aurait une phrase toute nulle qui tournerait en boucle depuis 10 ans, mais qui quand même se targuerait de devenir un jour l'équivalent de Hemingway ou de Dos Passos, quoi. Je voulais accompagner les envies d'écriture d'Antoine de toute ma tendresse.
Ils sont très proches, c'est-à-dire quand je dis ils sont très proches, c'est que nous sommes très proches, plutôt nous, en tant que lecteurs et lectrices, de ces deux personnages-là. Vous avez été peut-être très proches en les écrivant. Ils ne sont pas regardés de très loin, ils ne sont pas dans des paysages gigantesques. Enfin, j'ai l'impression qu'on est toujours très proches d'eux. Est-ce que vous avez eu, tristesse ou regret à les quitter? Ou peut-être ne les avez-vous pas quittés? Je ne sais pas.
Je ne les ai pas encore quittés, parce que le moment où le livre sort et où je parle énormément du livre et donc énormément des personnages, c'est pas du tout un moment où je me sépare de Antoine ou de elle. C'est un moment où je peux dire que je vis avec eux, alors que pendant tout le temps de l'écriture, enfin évidemment je peux le dire, mais personne ne voit qui je désigne, donc il y a quelque chose d'une colocation secrète qui est un peu compliquée. Là finalement c'est peut-être le moment où c'est le plus facile qu'on vive tous ensemble, mes personnages et moi.
À vue de tous et de toutes.
Ah, c'est ça.
Ça veut dire qu'un livre en soi, en vous, c'est comme un empire dans votre empire?
Exactement, c'est exactement ça.
Toujours.
Toujours.
Et donc un empire c'est costaud quoi. Vous avez toujours, enfin un livre c'est, ça vous isole beaucoup du coup. Je sais pas, moi j'imagine les empereurs et les empereuses très isolés du reste du monde.
Oui, ça m'isole forcément. C'est un empire que je crée et dans lequel, pendant un temps donné, je suis la seule à pouvoir m'aventurer. Alors je peux essayer de construire des sortes de passerelle fragile pour que les autres puissent apercevoir
mais
mon empire
obligé,
et pour que je me sente un peu moins seule et pour que eux aussi se sentent un peu moins laissés de côté dans ce qui est en train de se passer, mais c'est quand même pas la même chose. Non, on l'habite pas ensemble quoi, cet empire pendant que j'écris, donc oui, il y a toujours une solitude et elle est très belle et parfois elle peut aussi être très pesante. Mais ça n'enlève rien à sa beauté.
Merci beaucoup. Alice Zeniter, Comme un empire dans un empire, c'est donc paru chez Flammarion en cette rentrée littéraire. J'imagine que vous avez plein de rencontres en librairie qu'on pourra mettre sur le site. Ça fonctionne encore. On peut
oui.
se déplacer en train, venir vous voir et tout ça.
Tout à fait, masqué, mais on continue à se retrouver et à dire comment on vit avec les personnages en public.
Et on pourra aussi aller vous voir sur scène pour un seul en scène qui s'appelle Je suis une fille sans histoire. C'est créé dans 2 semaines à la Comédie de Valence. On mettra ça sur le site. On pourra vous voir aussi à Alençon, par exemple, à la Roche-sur-Yon et à Paris au printemps.
Fuir, partir, s'échapper, porter, courir, bondir de rocher en rocher. Fuir, ralentir, s'arrêter, souffler, cacher, réfléchir, apprendre, courir. Fuir, marcher, s'entamer, s'arrêter. Ravir, s'abriter pour dormir. Fuir, traverser des écarts de forêt. Tremper, glisser, s'écorcher, pâlir.
Demeure de froid et je ressens une douleur. Tiraille par le choix, se rendre confié à fuir. Fuir, 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 fuir.
Fuir, souffrir, crever, marcher, errer, perdu sur la piste enneigée.
Par les temps qui courent, avec ou sans espoir?
Avec.
Par les temps qui courent, dedans ou dehors ou à côté?
À côté.
Par les temps qui courent, fuir ou rester?
Rester.
Par les temps qui courent, s'écoute sur franceculture.fr et en podcast, quand vous voulez, quand vous pouvez surtout. Au son, c'était Dauphard Guéride, Lise-Marie Barret à la réalisation, Romain de Bec-de-Lièvre, Marianne Chassor, Jeanne Aléos, Juliette Amon, c'est l'équipé. Très belle soirée à toutes et à tous.
Piste enneigée. décembre prochain.